Écho d'économie.
Instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion du secteur extractif en RDC, c'est la raison d'être du cadre national de concertation des parties prenantes dans le secteur minier instauré par le gouvernement. Le lancement des travaux de sa première réunion a eu lieu jeudi à Kinshasa par le Premier ministre. Hausse exagérée du prix de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Le sac de 25 kilos a atteint le prix de 100 000 francs congolais contre 25 000 il y a quelques mois seulement. Les raisons de cette augmentation brusque tout à l'heure dans cette émission. Il faut que les pays africains se dotent des infrastructures modernes pour stimuler les échanges commerciaux sur le continent. Estimation de Patient Saïba, ancien DG de l'OGFREM et expert en transport et facilitation de commerce. Il a pris part à un forum des affaires sur la ZLECAF à Cape Town en Afrique du Sud. Bienvenue à tous. Un cadre national de concertation des parties prenantes dans le secteur minier vient d'être instauré par le gouvernement. Le Premier ministre a donné le go des travaux de sa première réunion jeudi à Kinshasa. L'événement a réuni plus de 150 participants pour discuter sur les défis de la modernisation de l'exploitation minière en RDC. Ce cadre de concertation est une initiative du Conseil présidentiel de veille stratégique, un service placé sous l'autorité directe du président de la République. Public est coordonné par François Mwamba. Ce cadre nouvellement créé vise à instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion du secteur extractif en RDC. Il est aussi question de voir comment renforcer la responsabilité sociétale des entreprises minières, ainsi qu'améliorer la gouvernance minière et maximiser les revenus pour une meilleure gestion de la redevance minière. Écoutez Jean-Michel Samaloukonde dans cet extrait choisi par Cynthia Bachizi Nabizana.
Au vu des multiples défis auxquels est confronté le secteur, notamment la multiplicité des réalités et des acteurs, le président de la République a tenu à ce qu'un cadre idoine d'échange puisse voir le jour. La mise en place d'un cadre national de concertation est d'autant plus important et nécessaire ce jour au vu des velléités prédatrices qui transcendent le secteur et qui constituent une menace existentielle à la vie de nos populations et de notre nation. Les ressources minérales dont regorge notre sous-sol font l'objet d'une très forte demande et de convoitise en raison de leur centralité dans la transition énergétique et numérique dans laquelle l'humanité tout entière est embarquée aujourd'hui. La position de leader mondial dans la production de ces métaux doit impérativement nous interpeller dans la nécessité de renforcer le contrôle et la transparence sur toute l'étendue des chaînes d'approvisionnement desdites ressources.
De plus en plus, le prix de la farine de maïs n'est plus à la portée de toutes les bourses dans le Haut-Katanga. Nous en parlons avec vous, Jean Gandou. Qu'en est-il exactement?
Comme vous le savez, la farine de maïs est la principale denrée alimentaire pour la population de Lubumbashi. Par ce temps qui court, il apparaît clairement que acheter un sac de farine de 25 kilos n'est pas à la portée de toutes les bourses. Tenez, ce sac de farine qui coûtait tout au plus 25 000 francs congolais il y a quelques mois se vend jusqu'à 100 000 francs congolais, environ 50 dollars américains. Les commerçants les moins chers le vendent à 80 voire 85 000 francs congolais. La semaine passée, à certains endroits, ce sac de farine se négociait jusqu'à 50 000 francs congolais.
Et qu'est-ce qui peut justifier cette hausse brutale et exagérée du prix de ce produit sur le marché louchois?
Diverses raisons sont données. Pour les uns, c'est de la pure spéculation, car le prix a presque quadruplé. Même s'il faut évoquer la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, le franc congolais n'a pas perdu de sa valeur dans les mêmes proportions. Pour les autres, la Zambie, d'où les commerçants vont souvent acheter la farine de maïs, voudrait d'abord satisfaire les besoins locaux avant de songer à l'exportation. Cette deuxième hypothèse est aussi partagée par certains opérateurs économiques que nous avons contactés. Voilà pourquoi quelques-uns d'entre eux sont partie négocier avec les autorités zambiennes pour qu'une importante quantité de farine de maïs soit mise à leur disposition. Leur président parle de 100 000 tonnes qui sont attendues dans les tout prochains jours.
Comment cette question est-elle gérée par les autorités provinciales, Jean Gandou?
Il faut dire que dès le départ, le gouvernement provincial qui a subventionné certains agriculteurs en leur octroyant les intrants et au retour, chaque bénéficiaire à la récolte remet sa quote-part qui est de 15 sacs de maïs de 50 kg par hectare. C'est ainsi que le gouvernement provincial s'est doté d'une réserve stratégique à laquelle il recourt en cas de crise, comme ça n'est le cas présentement. L'année passée, la farine de maïs made in Okatanga était vendue au prix de 17 000 francs congolais le sac de 25 kilos. Cette fois-ci, à cause de la dépréciation de la monnaie nationale face à la devise américaine, le prix est passé à 20 000 francs congolais. Et cette farine se vend dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Mais il n'est pas toujours facile d'avoir cette farine à cause non seulement pas de l'affluence des louchois dans les différents points de vente, mais aussi à cause de la quantité insuffisante des sacs de farine par rapport aux besoins exprimés par la population. Et pour faire face à cette épineuse question, le gouverneur du Haut-Katanga s'était rendu en Zambie pour prendre langue avec les autorités de ce pays pour que la ville de Lubumbashi soit approvisionnée en ces denrées de première nécessité. Jusqu'à présent, les louchois sont toujours en attente de cette farine. Et dans l'espoir que cette situation se normalise, dans certaines familles, le régime alimentaire a changé. Il y en a qui recourent au riz, à la pomme de terre, à la patate douce et autres qui sont encore vendus à un prix abordable à la place du foufou ou du boukari prisé par les louchois. Voilà tout ce qu'on peut dire au sujet de la situation de la farine de maïs qui défraie la chronique à Lubumbashi.
Merci Jean Gandou. Et puis la ville de Gbadolité, chef-lieu du Nord Ubangi, fait face à une rareté de produits alimentaires. Pourtant, cette province est à vocation agricole. La situation est une conséquence de l'état des routes interterritoriales qui sont impraticables. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du territoire de Yakoma, l'un des 4 territoires du Nord Ubangi. Philippe Mouela l'a dit en marge du lancement jeudi du PDL T145 à Mobaï, à 55 km de la ville de Gbadolité. Il recommande aux animateurs du programme de développement local de 145 territoires de réhabiliter des routes d'intérêt provincial. Philippe Mouela est au micro de Paul Matendo.
Lorsque les routes qui relient les différentes entités territoriales sont dans un état impraticable, comment voulez-vous que le produit alimentaire coûte moins cher à Guadeloupe? C'est impossible. Quand quelqu'un peut transporter sur 200 km un fût d'huile sur un vélo, il va mettre combien de temps pour arriver? Et toute cette énergie-là, la personne va compenser pour faire un chemin aller-retour régulièrement. C'est par rapport au PDL 145T, je prends le 4 ponts qui font pratiquement 12 km de Yakoma. Si ces 4 ponts sont réhabilités, remis en état, et là où il y a beaucoup de trous, si on arrivait à rembler ces trous-là, on peut facilement atteindre Businga. Yakoma Businga, ça fait pratiquement 350 km. Et là, s'il y a un couloir facile quitter Yakoma pour atteindre le port de Businga, et facile, je pense qu'il y aura circulation des marchandises et il n'y aura plus un problème de prix élevé des denrées alimentaires.
Écho d'économie. Notre invité, c'est Patient Saïba, ancien DG de l'OGFREM et actuellement président exécutif de la société African Desk. Il est également expert en transport et facilitation de commerce. C'est en cette qualité qu'il a participé au forum des affaires sur la zone de libre-échange continentale africaine à Cape Town en Afrique du Sud. L'ASLECAF, c'est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un cadre stratégique qui fixe divers objectifs en matière de croissance durable et inclusive pour le continent. Patient Saïba, s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Monsieur Patient Saïba, bonjour. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de mise en application de cet accord qui consacre le marché unique africain?
Bonjour Madame Bachizi. Alors, bien brièvement, depuis 2018, année de la signature de l'accord portant l'ASDECAF à Kigali, au Rwanda, à ce jour, 47 pays ont déjà ratifié l'accord, ce qui est un record. Alors, concernant le niveau de mise en application de l'ASDECAF, il faut retenir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la première phase de l'initiative sur le commerce guidé qui a été lancée le 7 octobre 2022 à Accra, au Ghana. L'initiative sur le commerce guidé de l'ASDECAF concerne dans sa première phase 8 pays. On peut les citer, il y a le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie. Et ces pays se sont déclarés prêts à engager entre eux les échanges dans le cadre de l'ASDECAF, les échanges commerciaux donc. Voilà brièvement ce qu'on peut retenir de l'état de mise en application de l'ASDECAF.
Vous pensez que les pays africains aujourd'hui disposent des moyens de leur politique qui permettraient de rendre effective l'ASLECAF?
Madame Bachizi, ma réponse est claire. L'Afrique a bel et bien les moyens de sa politique. Le plus important, c'est la volonté et la vision. Ici, il faut par exemple saluer le rôle crucial qu'est en train de jouer Afreximbank, la banque africaine d'importation et d'exportation, qui a d'ailleurs reçu mandat de l'Union africaine de pouvoir appuyer le financement en vue de la mise en application effective de la zone de libre-échange continentale africaine. À côté de Afreximbank, il y a d'autres institutions financières, dont notamment la Banque africaine de développement, qui appuie aussi plusieurs projets et initiatives dans le cadre de l'ASLECAF. Tout ceci, c'est pour qu'on puisse vraiment arriver à l'intégration économique africaine, et tel est le sens donc de la zone de libre-échange continentale africaine.
La RDC fait déjà partie de la SADC, de l'EAC, des organisations qui consacrent aussi des marchés uniques au sein de leurs espaces. Comment positionner l'ASLECAF par rapport à toutes ces autres organisations?
Très bonne question, Madame Bachizi. La République démocratique du Congo appartient à 4 communautés économiques régionales à la fois. Il s'agit du COMESA, de la SADC, de la communauté économique des États d'Afrique centrale, ainsi que de l'East African Community. Alors, l'ASLECAF vient donc résoudre ce problème d'appartenance multiple à plusieurs régimes juridiques différents, dans la mesure où l'ASLECAF vient avec un régime juridique qui règle notamment des questions de commerce, des biens, des services, de l'investissement, de la propriété intellectuelle, des femmes et des jeunes dans le commerce, et même des règlements des différends dans le cadre juridique unique. L'ASLECAF devient donc ainsi le dénominateur commun de toutes les communautés économiques régionales et partant le catalyseur de l'intégration économique africaine dont les pères fondateurs de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine ont rêvé.
Vous intervenez donc dans ce forum en tant qu'expert en transport multimodal. Comment le transport et la logistique peuvent stimuler le marché unique africain quand aujourd'hui on sait que le plus grand défi en Afrique reste le déficit d'infrastructures routières pour connecter les pays africains? Et même aussi, si je dois rajouter, il est beaucoup plus facile de se rendre en Europe par avion que dans certains pays africains.
Vous avez raison, Madame Bachizi. Sans des politiques de transport bien élaborées, sans des infrastructures efficientes de transport, de communication et j'ajouterai de facilitation, eh bien, l'Afrique ne vaudrait un penny et l'ASLECAF ne serait qu'une chimère. L'ayant compris, l'Union africaine, le secrétariat général de l'ASLECAF, les communautés économiques régionales, et même plusieurs pays pris isolément ont, vous allez le remarquer, mis en place plusieurs programmes et levé des fonds importants pour le développement des infrastructures de transport, de communication et des facilitations. Ainsi, il y a lieu de faire remarquer que la SADC est une région très bien interconnectée, à l'exception des quelques axes routiers du nord du Mozambique et le Grand Congo qui reste à la traîne. Hélas, l'on peut également citer comme exemple la CEDEAO. Je fais ici allusion notamment au corridor Abidjan-Lagos qui traverse 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et encore une fois, l'une des exceptions ou l'un des bémols, c'est la RDC qui a toujours encore beaucoup de challenges par rapport aux infrastructures. Alors, l'attention, à mon avis, doit être accordée ou focalisée sur l'Afrique centrale et la corne de l'Afrique. Et je pense que ce sont ces deux régions qui constituent le maillon manquant de la chaîne pour interconnecter totalement l'Afrique et booster ainsi le commerce intra-africain. En conclusion, ce que je peux dire, c'est vraiment lancer un appel vibrant et panafricaniste à tous les dirigeants africains afin qu'ils investissent sans modération dans le développement des infrastructures de transport, de communication.
Merci beaucoup, Monsieur Patient Saïba.
C'est moi qui vous remercie, Madame.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix et excellent week-end dans notre compagnie.